Ce jour dédié pour la réfraîchement de Chaya Nechama Dina Bat Reisel. La question de Daniel.
Alors, Rav, j'ai une question. Pourquoi il y a 40 ans, Moshe Dayan il a fait une loi qui disait que les Bachor Yeshiva étaient exemptés de service militaire parce qu'ils protégeaient donc l'armée de Tsahal? Et deuxièmement, en lien avec la première, est-ce que c'est vrai que pendant la guerre de Kippour, Israël était très déminé puisqu'il y avait un tank israélien pour 12 tanks syriens et égyptiens? On dit qu'Israël affrontait à peu près l'équivalent de la force de l'OTAN. Donc est-ce qu'il y a eu vraiment une intervention divine?
Ok, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de quoi dire. Bon, paradoxalement, Moshe Dayan, qui était un super non-religieux, difficilement on croit qu'il a fait la Brit Mila. Je crois qu'il a fait la Brit Mila contre son gré une fois quand il était jeune, un rabbin est venu, lui a fait, on n'est même pas certain. Sa fille était une super anti-religieuse. Je me souviens à l'époque où genre, la première, il y avait une photo d'elle en bikini sur la plage, à Yom Kippour. À Yom Kippour, je vais à la plage, d'accord, en première du journal, pour montrer qu'elle était super contre. Alors, comment se fait-il qu'un type pareil, qui a commencé beaucoup à aider le peuple d'Israël, c'est clair, il était ministre de la Défense avant la guerre des six jours, et a bien joué. Et comment c'est la guerre des six jours? Nasser a fait la Ligue arabe et une union de tous les peuples, 8 peuples, 8 armées arabes contre Israël. Et il ferme le détroit de Tiran, donc par la mer Rouge, l'accès des bateaux israéliens à Eilat, par la mer Rouge. Et mobilisation en Israël. Tension. Pendant 3 semaines, on ne sait pas ce qui se passe. On rentre en guerre, on part en guerre, mobilisation, tout le monde attend, une armée contre l'autre armée, on ne sait pas ce qui se passe. Un soir aux nouvelles. On invite Moshe Dayan, ministre de la Défense. Alors, que pensez-vous de la guerre? Il dit, c'est ou trop tôt ou trop tard. C'est pas maintenant, aucune bonne raison de commencer la guerre maintenant. On aurait dû commencer avant ou attendre quelque chose, un autre dénouement. Et les super relax. Le monde arabe, qui évidemment regarde la télévision israélienne, baisse de tension. On est 5 heures avant l'attaque des avions israéliens. Il devait être dans une tension terrible. Il ne montre rien. Il a joué très très bien à la télévision. Du genre super relax. La même nuit, les avions israéliens partent des bases israéliennes en Égypte, en Irak, en Syrie. Au petit matin, ils bombardent, on peut dire, presque la totalité de l'armée de l'air égyptienne, syrienne et irakienne. Les Jordaniens ont vu ça, ou les Saoudiens, ou les Jordaniens, je ne me souviens plus, ont vu dans les radars les avions qui partent. Ils envoient en code aux Égyptiens, attention, il y a des avions qui viennent chez vous. Le même moment, il y a eu un changement du code. Et avec quelques heures de non-simultanéité, donc ils ont reçu un message qu'il ne faut pas décoder. La main de Dieu extraordinaire. Et en 6 jours, il y a eu une guerre qui, dans les écoles stratégiques américaines, n'est jamais étudiée, la guerre des 6 jours. Pourquoi? Les profs disent que ça ne sert à rien d'étudier cette guerre, c'est un miracle de A à Z. Ça ne tient pas la route. Miracle extraordinaire. Moshe Dayan, d'ailleurs, conquiert Jérusalem, il arrive sur le mont des Oliviers, mais ils n'ont pas conquis la vieille ville de Jérusalem arabe. Ils ont conquis autour. Ce n'est pas tellement une place forte. Il y avait une place forte là-bas, bon, mais ce n'était pas trop... Ce qui est autour était extrêmement... plus dur et plus grave, il y a eu beaucoup de morts à la Guerre d'Armoche, la colline des munitions ici à conquérir, etc. Et Motagour, décédé cette année, la mort de Haïgour, d'accord, était le chef des parachutistes, me dit, eh bien, on conquiert Jérusalem. Ah, t'as raison, pourquoi pas, on y va. Et il conquiert Jérusalem, le Kotel, etc. Elle, c'était comme ça par hasard, ils n'étaient même pas intéressés par ça. Et Moshe Dayan, après la guerre, il est bien embêté. Il y a le lieu du temple, avec la mosquée, qu'est-ce que je fais de ce machin-là? C'est juif, c'est arabe, c'est truc. Alors il fait un truc qui jusqu'aujourd'hui nous fait des problèmes, pas pour longtemps encore, c'est-à-dire 50 ans, on espère que cette année on va régler le problème une fois pour toutes, ben Ezrat Hashem, j'espère, j'imagine, je pense, et je me trompe. Il donne les clés, on appelle ça le WAKF. Le WAKF, c'est toute cette région-là, c'était le comité responsable de l'esplanade du temple, il le rend au responsable du WAKF, qui n'en croit pas ses oreilles, ni ses yeux. D'accord. Comment maintenant Moshe Dayan, il me rend maintenant les clés de... Voilà, on devient responsable de nouveau de notre endroit, qui est aujourd'hui c'est enclave jordanienne. Ça appartient à la Jordanie. Alors, quelle est la question? Pourquoi Moshe Dayan, Alors, il est écrit un verset dans le roi Salomon, qui est dans Michelet, dans les proverbes, il dit que le cœur des rois et des ministres est dans la main de Dieu. Tu peux voir durant l'histoire, des gens dans leur campagne présidentielle, qu'est-ce qu'ils disent, après qu'est-ce qu'ils font? Rien à voir. Il veut faire comme ci, il veut faire comme ça, c'est Hachem qui gère. Hachem gère tout, les petits escargots, les petits moustiques aussi, mais certainement beaucoup plus les rois. Parce que de eux dépend le bon fonctionnement du monde, vers où on va aller, vers une guerre, vers une paix. Ça, c'est Hachem qui décide ce genre de choses-là. Donc, Moshe Dayan, bien qu'il n'ait aucun sentiment et aucun background religieux, a fait une chose très bizarre. Il a dit, les religieux ne vont pas à l'armée. Rabin, qui était de même, aussi un grand socialiste, il a dit, on a une Kabbalah, une tradition, les religieux ne vont pas à l'armée. Il y en a un, à l'époque, il a fait son... Il a fait son toute sa campagne présidentielle, tout le monde à l'armée. Cool, là, il y avait des pubs comme ça, cool, là, tout le monde à l'armée. C'était Ehud Barak. C'est un grand monsieur Ehud Barak, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a monté NTB, c'est lui qui était dans, c'est lui qui est dans le, c'est le chef Serge Matkal, lorsqu'ils ont les premières fois les Palestiniens, ils ont capturé un avion de la Sabena. Eux, ils sont allés déguisés en mécano, ils sont rendus, ils sont rentrés dans l'avion, ils ont tué les bons. C'était un type qui a fait le plus, c'est lui qui a le plus de médailles israéliennes de l'armée. Un petit monsieur comme ça, bon, c'était quand même un grand soldat. C'est la seule présidence de l'État d'Israël qui a duré qu'un an et demi. Hachem a dit, mon cher ami, tu veux pas les religieux, tu veux les religieux à l'armée, tout le monde, allez, dégage, on t'a fait monter, on t'a fait descendre. Tchic-tchac, un an et demi environ, il a tenu. C'est Hachem qui gère. Alors évidemment, celui qui a un peu de cervelle dans son crâne comprend que l'histoire d'Israël ne commence pas en 48 avec la création de l'État d'Israël. On a un peuple vieux, on a 3330 ans cette année. Et durant 3330 ans, on était 2500 ans en exil. Et chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir, comme on dit le soir de Pessah. Et à tous les coups, il disparaît et nous, on est là. Ce n'est pas qu'on ne souffre pas, on souffre, c'est terrible, mais on est là et eux ne sont pas là. On a gagné. Grâce à quoi? Il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas d'aviation, pas de commando, il y avait des prières, des jeûnes, études de Torah et pleurs à Hachem. Et ça, ça marchait mieux que tout. C'est ça, Am Israël. Parce que le roi David part en guerre contre Goliath. Qu'est-ce qu'il lui dit? Goliath vient avec une armure, un type qui est avec un bouclier devant lui. Il a une épée super longue, un javelot, une armure qui va du haut de la tête au bout des ongles. Et il insulte et blasphème. Il insulte David et il blasphème contre le Dieu d'Israël. Le roi David lui dit, toi tu viens contre moi avec ton armure, ton javelot, ton épée. Moi je viens au nom du Dieu d'Israël que tu as blasphémé. Et moi je m'attends à donner ta chair en pâté aux animaux du ciel, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et il court vers Goliath. Et un miracle a lieu, et il lance une pierre, tac, elle traverse l'armure, et il meurt sur le coup. Eh bien, il coupe la tête. Qu'est-ce qu'il dit David à Goliath? Toi, tu viens avec l'arme physique, moi, je viens avec le nom de Dieu. Ça, c'est Am Israël. Le mot Yehoudi, c'est quoi Yehoudi, juif? T'écris Yehoudi. La dernière lettre, c'est Dalet. L'avant-dernière, c'est un Dalet, je fais pour vous comme ça, pour vous, c'est à l'envers. Comme ça. Dalet, et un Dalet comme ça, et un Yud. Donc, je mets le Yud, je mets ici. Qu'est-ce que ça fait comme lettre? Hey, ça fait quoi? Yudke Vavke. Un juif, il porte le nom de Dieu en lui. Comprenez? Yehuda, Yehudi, quelqu'un vient de Yehuda. Yehuda, tu enlèves le Dalet, ça fait le nom de Dieu, Yudke Vavke. Le Dalet, c'est défi, Dal, pauvre. C'est le dernier hey qui est pauvre. La présence divine qui correspond au dernier hey du nom de Dieu, qu'elle est en exil. Mais on a le nom de Dieu avec nous. Alors elle est en exil, il y a de la souffrance, c'est difficile. Mais tu ne peux pas éliminer le nom de Dieu, il est éternel. Donc tous les peuples qui sont opposés à Israël disparaissent et nous on reste. Ça c'est la leçon du peuple d'Israël face à toutes les nations. Et comme promis, on revient en terre d'Israël. Ils n'en reviennent pas. Avec capitale Jérusalem, ils n'en reviennent pas. Il n'y a que Trump qui a dit, et Pence qui était là maintenant il y a une semaine, il a dit c'est une erreur de l'histoire, on aurait dû dire ça il y a 70 ans, que Jérusalem est la capitale d'Israël. Ouais, c'est pas maintenant qu'il fallait le dire. Il y a 70 ans déjà. Il s'est trompé. Oui, il y a 70 ans exactement. 70 ans, la création de l'État d'Israël. C'est ça. Pourquoi les goyim ne veulent pas reconnaître ça? Pas à cause des Palestiniens. Parce que c'est incroyable qu'un peuple, après 2500 ans, revient sur sa terre. D'autant plus que les chrétiens ont dit que c'est impossible. Les chrétiens ont écrit, le peuple juif est condamné à vivre en exil, toujours, pour montrer un exemple au peuple comment Dieu châtie celui qui refuse de reconnaître Jésus. On revient à Jérusalem, ils l'ont mis dans le baba.
Est-ce qu'il y a un rapport 70 ans, 63 ans ?
Je suis convaincu qu'il y a un rapport de toutes ces choses-là. On est 70 ans après la création de l'État d'Israël. On est un siècle après la déclaration de Balfour. On est un siècle après l'entrée des Anglais à Jérusalem, 1917, décembre 1917. On est 50 ans après la guerre des Six Jours. On est 1300, bientôt 80 ans après le début de Ishmaël. Tout converge. Si je ne me trompe pas, c'est pour bientôt. Si je me trompe, c'est pour bientôt aussi. Hein ? Ok, non, ça va, on a le... Non, j'ai dit qu'Ishmaël devrait tomber avant février 2018. J'ai fait un cours il y a deux semaines qui s'appelle Ishmaël est tombé. Tu le vois, c'est clair. Les gens disent non, mais ils ont super d'influence dans le monde. Je m'en fous de l'influence dans le monde. Je parle maintenant d'Ishmaël par rapport à Israël. Qui nous menace ? Il n'y avait plus rien. Il y avait encore la Syrie, plus de Syrie. Qui a ? Il y avait l'autorité palestinienne. Mais il s'est fait ratatiner, le pauvre. Il a été mendié que la Belgique veut bien se mettre à... La Belgique a accepté. Trouve encore un en Europe qui est prêt à faire une déclaration unilatérale, je vais avec toi. Il n'a même pas trouvé un. Il est ratatiné. Ah, il n'y a plus rien. Plus rien.
Il a quand même lancé la guerre.
Oui.
Donc, il faut une armée. Il y a aussi il y a eu des...
Khazal dit. Pourquoi il a pris cinq pierres. Pourquoi cinq? Deux explications. L'un qui était tunisien déjà à la base. D'autres disent par rapport, c'est la vraie explication, par rapport aux cinq livres de la Torah. Et Even, on sait ce que c'est aussi. Even, comme dit Rashi sur le verset où Misham roi Even Israël, notre icône, il dit, c'est la contraction de deux mots, Av, Ben, le père qui enseigne la Torah à son fils. Cette éternité de l'enseignement de la Torah dans le peuple d'Israël, c'est ça qui fait qu'on gagne les guerres. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas des soldats. Il faut des soldats. Mais le critère de la victoire, c'est la Torah. Celui qui peut étudier, doit étudier. Celui qui ne peut pas étudier, il y en a qui ne peut pas étudier. Ah, quelle est l'armée ? Très bien. J'ai déjà raconté. Moi, je fais l'armée. Après, je suis rentré à l'Yeshiva. Mon chavruta, mon copain d'études, il n'avait pas fait l'armée. Je vais quitter l'Yeshiva. Je vais voir le Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, ce n'est pas black, c'est black de black. Orthodoxe, anti-armée, ce que tu veux. C'était dans mes Hacharim. Enfoncé, on ne peut même pas arriver en voiture chez lui. C'est un petit chemin comme ça, fallait arriver. D'accord ? Un autre monde. Mais le grand de la génération, il lui a dit, tu n'es pas à la Shiva, tu vas à l'armée, directement. On est en guerre. Tu peux rentrer dans le commando, tu dois aller dans le commando. Commando égale Yeshiva. Tu ne veux pas dans le commando ? Ok, alors il y a d'autres armes. Il y aura dans les tankistes, dans les... Qu'est-ce que j'en fais moi, d'accord ? La marine. Mais tu ne peux pas rester sans rien faire. Les tankistes, la marine, c'est l'armée. L'armée terrestre, c'est-à-dire l'armée physique, l'armée spirituelle, qui est le critère de la victoire, comme c'est marqué dans le traité Makot, page 10. C'est marqué Omdot Ayu Ragan Ubeshar Yerushalayim. Nos pieds se tenaient debout dans tes portails Jérusalem. Dit la Gemara, grâce à quoi nos pieds se tenaient-ils debout dans les guerres d'Israël, au combat on gagnait? Grâce au portail de Jérusalem dans lequel on tue la Torah. Le critère de la victoire, c'est la Torah qui est à Jérusalem. Ou à Bnei Brak, peu importe. La Torah qui est dans le peuple d'Israël. C'est grâce à ça qu'on gagne. Alors, il faut aussi des gens qui jouent la comédie, comme dans tout. La Parnassa vient maintenant de Hachem fixe maintenant combien de Brakha Torah. Parnassa. Alors, tu restes dans ton hamac et tu fais rien. Il faut aller aussi travailler un peu. Oh, c'est si je t'ai de l'out. Il faut jouer la comédie. Comédie. Mais vouloir prendre des gens qui sont dans les chiffres et mettre à l'armée, c'est du suicide. Du suicide. Et ça, les grands d'Israël, c'est quand je parle des présidents de l'État d'Israël, ont compris ça. Et ils ont toujours dit comme ça, toujours, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, les miracles qu'il y a eu durant la guerre de Kippour, c'était terrible la guerre de Kippour. Et là, je vous dévoile des choses qui sont connues sur Internet en Israël, et même un film qui est passé à la télévision, n'est pas connu du monde francophone. C'est une histoire absolument sordide et terrible. Alors, je vous la raconte ou pas ? Bon. Kissinger à l'époque, qui était ministre ou secrétaire d'État américain, il est censé l'aller-retour entre l'Égypte et Israël. En Égypte, Nasser a décidé quelques mois après la guerre des six jours. C'est les kabbalistes ici de Jérusalem qui l'ont fait. Ils ont fait un poussin des nourras, ils ont fait un truc. Ils vont en noir. Enfin, ils ont fait un truc pour que son âme soit déracinée. Il est mort quelques semaines après, à Ouh Hachem. Et il y a eu Sadat à la place, Anwar el-Sadat. Alors, Sadat était prêt à faire la paix. Mais nous, on n'était pas au courant. Et il y avait des pourparlers sans cesse. Et tout à coup, guerre de Kippour. On ne comprend pas. Quelques jours avant la guerre de Kippour, l'État d'Israël demande d'enlever toutes les mines qu'il y a sur la ligne Barlev. La ligne Barlev, c'est donc la frontière israélienne était sur le canal de Suez. L'autre côté du canal, c'est égyptien. De ce côté, c'est Israël. Enlever toutes les mines. Ensuite, Yom Kippour arrive. Les commandants disent qu'il n'y a pas assez de force sur le front. Il envoie des messages. Et on voit que la direction, ils ont dit non, tous les soldats qui rentrent à la maison, la majorité. On ne comprend pas. On annonce qu'on voit qu'il y a des préparatifs de guerre chez l'ennemi. Aucune réponse de notre côté. Idem en Syrie. Et tout d'un coup, le jour de Kippour, l'armée égyptienne, l'armée syrienne, rentre au Sinaï et dans le Golan. C'était terrible. Il y a eu plus de 2000 morts durant cette guerre. Il n'y a eu aucune guerre d'Israël qui a eu autant de morts. Et bon, Hachem, grâce à des miracles extraordinaires qu'Hachem a fait, on a pu récupérer. Ariel Sharon, il y avait la 3e armée, qui, on va dire que c'est le canal de Suez. Les Égyptiens rentrent dans le Sinaï. Ariel Sharon, avec sa brigade de tanks, avance sur le côté. Il arrive au détroit du Mitlé et il le dépasse. On lui dit « Arrête-toi ». Il dit « Mais je peux continuer tout droit. Arrête-toi ». Il dit « Je refuse l'ordre ». C'est très grave. C'est un jugement en tôle pour quelques bonnes semaines ou mois, un truc pareil. Tu refuses un ordre de ton commandant. Il continue tout droit. Et il traverse le canal de Suez. Il arrive jusqu'à 101 km en Égypte, près du Caire. Et il coupe les voies d'accès entre les Égyptiens et la 3e armée, l'armée égyptienne qui s'appelle la 3e armée. Ils se retrouvent coupés de leurs sources, sans eau, sans vivres. En quelques jours, ils ne peuvent plus bouger. On ne leur a rien fait. Après une victoire pareille due à Ariel Sharon, il ne faut pas lui dire maintenant tu vas en tôle. Tu as bien fait de refuser l'ordre. Mais il a risqué gros. Pourquoi l'armée lui dire arrête-toi ? Au contraire, continue, tu t'avances, vas-y, fonce. L'histoire, elle est terrible. Elle a été dévoilée il y a quelques années par un film documentaire qu'ont fait les trois filles du premier commandant d'escadrille de Mirage israélien. Il s'appelle Joe Alon. Premier chef d'escadrille d'escadrille de Mirage en Israël à l'époque. Un film qui s'appelle « Efo Abba, où est Papa ?» À un moment, il quitte l'armée et il devient envoyé des Israéliens en Amérique pour les questions de sécurité. Il a trois filles jeunes, tuées à la maison, en Amérique. Et un jour, il revient d'une réception avec sa femme à la maison. Un type vient, c'est en 73. On est environ 6 mois avant la guerre de Kippour. Vient un type en moto, s'arrête, lui tire 3 balles dans le dos, ta, 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 se ramasse pour prendre les douilles. Et part. Devant la femme, son mari mort, les enfants, terrible. On ne comprend pas. Moshe Dayan dit, c'est les Palestiniens, on ne va pas les laisser faire, on est contre les attentats, etc. Ils n'ont jamais fait un attentat, les Palestiniens, auparavant. Première fois qu'on entend un attentat des Palestiniens. Il n'y avait jamais eu auparavant. De plus, ce n'est pas une façon palestinienne. Palestinien, qu'est-ce qu'il veut ? Il envoie une grenade et tout saute, avec la femme et le gosse et les enfants. Il vient et tire 3 balles, il prend les douilles, il part. C'est du travail. C'est pas du travail palestinien. C'est pas leur habitude de travailler comme ça. Elle commence à faire des recherches. Et un jour, le chef de l'armée de l'air, Ezer Weizmann, il s'appelait, qui était un copain de son mari, Joe Alon, il dit, ton mari, il buvait beaucoup. Et il parlait. Ça a mis la puce à l'oreille. Et elle a continué l'investigation. Le truc, il est comme ça. En fait, Kissinger a convaincu Golda Meir de faire la paix avec l'Égypte. Ils ont voulu la paix avec eux. Alors al-Sadat a dit, je ne peux pas. Si je veux faire la paix maintenant avec Israël, après la guerre des six jours, je suis en position de vaincu. Et pareil, avec tous les Arabes autour de moi, si je dis maintenant je veux faire la paix, c'est encore plus, c'est vaincu plus que vaincu. Ils vont avoir ma peau. Je ne pourrais pas faire un truc pareil. Faisons une soi-disant guerre. On me laisse gagner maintenant. Je rentre sur le Sinaï. Je gagne 10 km, 50 km dans le Sinaï. Et là, on s'arrête. Comme ça, j'aurai une petite victoire. Et on fait la paix. C'était super secret. Joalon était au courant. Et il parlait. Et si un truc comme ça se savait, c'était la fin des haricots. Vous pouvez aller voir ce film, qui s'appelle Joe, où est papa, d'accord, qui montre avec beaucoup plus de preuves, comme quoi c'était un coup monté israélien, américain, israélien, égyptien, qui a coûté 2000 morts. Hélas. Au Golan, on a des miracles extraordinaires. Les Syriens ont conquis le sud du Golan, sont arrivés. Ils avaient un programme d'arriver jusqu'au Jourdain. Le Golan, il s'arrête au Jourdain. Ils avaient un programme d'arriver en 36 heures au Jourdain. Ils sont arrivés en 24 heures. Ils ont eu peur d'un piège. Ils sont partis. Ils sont repartis. En tout cas, ils ont mis un piège pas normal. Les Israéliens sont forts. Ils sont faut rentrer dedans. Après, ils vont nous couper. Tac, on va être fichés. Ils sont repartis. Ça, c'est dans le sud où ils ont vraiment réussi à rentrer. Bon, il y avait très peu de temps dedans. Il y avait, si je me souviens bien, deux Gdoudim, ça fait peut-être, allez, 60 tanks dans tout le Golan. 30 dans le sud, 30 dans le nord. Dans le nord, Victor Kahalani, chef du Gdoud 7, numéro 7, contre 2000 tanks. Il a 30 tanks contre 2000 tanks syriens. Et les a arrêtés. On a arrêté un des généraux syriens. On lui a dit, pourquoi t'as pas avancé? Il dit, vous croyez que c'est facile d'avancer quand tu vois devant toi un ange qui te dit, arrête-toi? Un ange qui te dit arrête-toi, du miracle extraordinaire. Dieu a pitié de nous. On était complètement ratatinés à Kippour. Ces bêtises de Golda Meir et Kissinger et Kourkat et compagnie. D'accord ? 73, la guerre de Kippour.
En 73, il n'y avait jamais d'attentat.
Ça se peut que je me souviens plus si maintenant il y avait eu juste l'attentat des athlètes aux Jeux Olympiques. Je crois que c'était en 73 aussi à Munich. 73 aussi, ça commençait. Pogrom, c'est pareil. Pogrom, ouais, pogrom. Quel pogrom? Avant, ok, ça c'est pas, ok, mais c'est pas les attentats comme ils faisaient. Aller en Amérique, tuer quelqu'un, un Israélien, machin, il n'existe pas un truc pareil. Voilà, messieurs, donc Baruch HaShem, Dieu nous a protégés, pas parce qu'on est bon en high-tech, pas parce qu'on a des belles plages, pas parce que les tomates israéliennes sont bonnes, parce qu'HaShem a voulu que son peuple revienne en terre d'Israël pour qu'il y ait ici la Torah. C'est évident. Celui qui ne voit pas ça, il est aveugle. Donc, on a une mitzvah super grande, énorme, de qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup de Torah. J'ai lu dernièrement un interview de Rav Chaim Kanievski, 7 jours après le décès de Rav Steinman. Il dit que le Rav Steinman est né en 1913. Il fait partie de tous ceux qui sont battus pour qu'il y ait beaucoup de Torah en Israël. Des kolelim, des yeshivot, beaucoup de kolelim, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a réussi. Aujourd'hui, il y a non seulement en nombre, mais en qualité. La qualité d'études, elle est beaucoup plus grande qu'avant la guerre. Il y a des cerveaux énormes, il y a des livres profonds. Le Rav Chaim dit comme ça, la Torah est beaucoup plus grande. C'est clair que ce que Hachem veut. On n'a pas reçu cette terre miraculeusement pour être ici, en sécurité, pour avoir la plus sympathique capitale gay au monde à Tel Aviv, et avoir du tourisme sympathique avec le Saint-Sépulcre et la mosquée d'Omar. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Ce n'est pas ça, c'est évident. Celui qui voit l'histoire du peuple d'Israël, on est parvenu avec ces miracles extraordinaires, avec une Shoah terrible, tout ça a un sens, il y a un rapport. Les gens, ils s'arrêtent, ils voient un truc, ils s'arrêtent. Il y a une continuation des choses, il y a un sens à tout cela. Ça mène vers Mashiach Bezrat Hashem, Mashiach Hekal Torah. Voilà. L'homme que nous avons, dont on a entendu parler, qui est avec Mashiach à notre génération, c'était Baba Meir. Il était Torah, 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 toute la journée Torah. Le Rav Ben Sam Mashiach m'a dit, connaissait tout. Tout, toute la Torah. C'est ça, Mashiach. Mais Charmin, qu'est-ce qu'on fait? Chacun prend ses dédères. Torah, pas du la Torah. Bertrachem, très bientôt. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.